Ce qui prime aujourd'hui dans la société, c'est l'argent. Donc, il faut passer du paradigme qui met l'argent et le profit au centre du destin collectif vers l'humanité et la nature au centre.
Bonjour, vous êtes dans l'émission Le Domaine du Possible sur Radio Grand Ciel. Et aujourd'hui, nous sommes nombreuses sur le plateau. Je reçois Lisa et Angélique des Colibris et Nelly Forget, qui est bien connue à Radio Grand Ciel, qui est présidente d'Univers Santé et aussi animatrice de l'émission Le Quart d'heure Bien-être. Bonjour.
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 Nous nous retrouvons toutes pour parler de révolution intérieure aujourd'hui. Nous sommes toutes dans une immense barque collective à voir que nous voulons changer le monde. Nous allons à la dérive, hein, d'après nous, et nous sommes nombreux à vouloir changer de cap. Donc dans nos associations comme Colibri ou comme Univers Santé, nous expérimentons chacun, chacune, que ce changement de cap ne peut se faire sans que soi-même nous allions puiser dans nos propres ressources, sans que nous amorcions nous-mêmes des changements dans nos habitudes, dans notre vision de l'autre et de la vie. Donc c'est de cela que nous allons parler et témoigner aujourd'hui. Je voulais commencer avec Nelly parce que nous sortons d'un immense événement qui a été Alternatiba, donc qui a été un événement qui avait pour but, comme mission, d'insuffler un nouveau souffle, de vouloir changer le cap justement, de sensibiliser les gens au changement climatique. Alors, quel bilan fait-on après cet événement immense ?
J'ai eu et nous avons eu beaucoup de retours positifs. Donc, c'était un bilan très positif pour plusieurs raisons. Donc, les gens qui étaient assez enchantés par ce qui se passait, mais aussi parce que c'est quelque chose de très nouveau en Eure-et-Loire. Alternatiba aussi a une vocation importante à mon sens, c'est qu'on essaye de parler à des non-convaincus, ce qui n'était pas pour une première évident et peut-être pour une prochaine fois plus facile. Mais on voulait aussi montrer tout ce qu'on est capable de faire à tous les niveaux pour l'alternatif, qui est important pour le climat, au niveau individuel, associatif, mais des entreprises étaient là aussi. Et on essaiera bientôt aussi de travailler avec les institutions pour qu'elles bougent elles aussi, puisque tout le monde doit bouger à son niveau. La nouveauté, la difficulté et la réussite du coup d'Alternatiba, c'était aussi de réunir autant de thématiques qu'il y en avait. Il y en a même plus que ce qu'on a présenté. Et tout ça était donc très nouveau en Eure-et-Loire et à Chartres. Et on a réussi à réunir tous ces acteurs avec tout ce que ça avait d'improbable à Chartres en Eure-et-Loire. Voilà, donc c'était une réussite au-delà de nos espérances. Donc merci à tout le monde.
Les Colibris étaient sur le site aussi, qui ressemblait à un petit village. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cette journée très particulière, unique, en Eure-et-Loire ?
Mais écoute, à l'image d'un village, c'était très vivant, très joyeux, très léger. Il y avait des activités artistiques, de la musique, des loisirs, du bricolage, et puis un certain nombre d'acteurs de l'alternative qui proposaient des services et des produits. Moi, j'ai moi-même personnellement profité pour prendre des informations. Je ne pensais pas qu'il y avait autant d'offres. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était plutôt très très positif et à renouveler surtout.
Donc on a constaté une grande diversité qu'on ne pouvait pas forcément imaginer sans se relier ce jour-là, être en convergence ce jour-là en Eure-et-Loire. Et tu voulais aussi rajouter quelque chose, Lisa ?
Oui, vraiment, je trouve que le mot, là, je rebondis sur le mot de convergence, parce que c'était vraiment une convergence d'énergie qui s'exprimait chacune de façon variée, mais qui allait dans le même sens, avec une envie d'échange et de donner une impulsion à du nouveau, à une ouverture sur ce que demain peut être avec des moyens différents.
On a voulu un peu mettre l'accent sur le fait qu'il fallait sensibiliser aussi des personnes qui n'étaient pas forcément au départ prêtes à être sensibilisées sur ces thématiques. Et donc Là, ce qui est ressorti, c'est que tout s'est bien passé. Nous avions vraiment beaucoup de joie, d'allégresse à être ensemble et à construire quelque chose ensemble. Mais a-t-on sensibilisé les personnes qui n'ont pas forcément envie de changer? Donc, c'est peut-être une prochaine étape.
Oui, je pense que déjà, il y a une grosse surprise que l'alternative s'implante à Chartres. Et donc, il fallait déjà se familiariser, je pense, avec cette surprise-là. C'est intégrer le fait que ce soit possible et qu'il y ait des acteurs. Nous-mêmes, on était en train d'en parler tout à l'heure, on était étonnés qu'il y ait autant d'acteurs. Et même si on trouve qu'il n'y en a pas assez, il y en avait beaucoup. Donc, il fallait cette prise de conscience, je pense, et que ça se passe déjà une fois pour après, je pense, s'attaquer à la réalité de, effectivement, essayer de convaincre des gens. Ou si c'est pas convaincre, parce que convaincre, c'est un mot peut-être un peu fort, en tout cas, sensibiliser et intéresser et parler, dialoguer, avancer dans le débat, quelque chose qui fasse vraiment évoluer les choses.
Je crois que la réussite tient également au fait que le fait d'avoir rassemblé toutes ces personnes, c'est aussi une première étape pour apprendre à se connaître. Et la base, je pense, de l'évolution et du changement, c'est également la confiance et être ensemble, passer un bon moment ensemble, apprendre à se connaître. Ça permet d'aller de l'avant et peut-être de nous surpasser et d'avoir des projets beaucoup plus ambitieux ou multiples dans les mois et l'année à venir. Mais déjà, apprendre à se connaître, et voilà, c'est un premier pas, me semble-t-il.
C'était l'occasion de créer des liens. En tout cas, pour tous ceux qui ont participé à l'organisation, c'était un réel défi parce que ça n'a pas été sans difficulté, cette première. Espérons que la suivante, s'il y a, sera plus simple à gérer. Mais cette première était très difficile. Et pour ma part, qui ai participé, avec ma petite part de colibri à cet événement, j'ai vraiment senti qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort, que j'amorce de nouvelles habitudes, que je prenne confiance en moi, que j'arrive à aborder des personnes autrement. Donc j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un lien entre le fait de vouloir changer les choses, vouloir transformer les autres et se transformer soi-même. Est-ce que vous avez ressenti quelque chose de semblable en participant à de tels événements ou au sein des colibris? Parce que c'est vrai que les colibris nous demandent d'être créatifs et de trouver des actions qui visent à sensibiliser les gens. En quoi est-ce qu'il y a un lien entre vouloir changer le monde et se changer soi-même?
Alors moi, c'est vrai que ça m'a forcément changé parce que j'ai mis de côté toute ma vie personnelle. Donc ça supposait de fonctionner complètement différemment de ce que j'avais jamais fait et qui était fait en pleine conscience. Donc c'était une parenthèse de vie que je disais, la cause en valait la peine. Donc il fallait que je m'investisse complètement et que je laisse tomber l'association un peu, ma famille, mes amis... Mon confort personnel, ce que tu disais était très juste. Je pense qu'on est dans une société où on est dans un certain confort quand on voit ce qui se passe dans d'autres sociétés, un confort qu'on recherche à tout prix. Et c'est un petit peu l'inverse de ce qui mène au changement. C'est-à-dire que c'est en sortant de ce confort-là qu'on va s'obliger à changer ou trouver le moyen de changer ou être changé par ce qui se passe. Donc... Oui, je pense que c'était, apparemment pour toi, mais pour moi aussi, un formidable outil de changement. Après, je sais que pour changer vraiment les choses, comme le disent les colibris, il faut une révolution intérieure, mais que la révolution intérieure, c'est un travail de longue haleine et c'est pas que par les expériences, c'est pas que par les faits.
Oui, c'est l'histoire d'une vie. Oui. Les colibris.
Oui, pour moi, il me semble aussi que la révolution intérieure, elle est essentielle. C'est un peu, en tout cas, ce que j'ai expérimenté personnellement. C'est mon cheminement, c'est ma révolution intérieure. C'est parce que j'ai changé ou laissé évoluer mon regard sur moi-même que j'ai renoncé à des parties de zone de confort, que j'ai lâché des vieilles branches auxquelles je m'accrochais désespérément parce qu'elles m'étaient connues. C'est tout ce chemin-là de regard à la fois bienveillant, mais aussi sans lunettes et sans aveuglement, un regard le plus clair possible sur moi-même, qui m'a conduit à avancer sur un chemin qui me conduit ensuite vers des actions, vers des groupes, vers d'autres qui ont des envies semblables aux miennes. Oui. C'est le cheminement intérieur qui m'amène à l'autre.
Angélique, tu es passée par la phase de renoncement, je crois aussi.
Alors moi, j'entends sortir de sa zone de confort. Moi, je suis rentrée dans ma zone de confort. J'ai fait un peu le processus inverse, qui est très inhabituel, puisque je suis plutôt... je suis habituée à faire, voilà, depuis de très nombreuses années. Et j'ai toujours été... ce qui m'a séduit chez Pierre Rabhi, c'est cette phrase du « on est hors sol, on est déconnecté ». Alors je comprenais un petit peu cérébralement, mentalement, et là je dois dire que contre toute attente et à ma très grande surprise, lorsque j'ai d'abord rejoint Nelly pour Alternatiba, j'ai dû renoncer et lui expliquer qu'il fallait au contraire, moi ma révolution c'était d'être mise sur le banc de touche et d'être observateur, ce qui n'est pas du tout habituel, donc ça a été ma petite révolution, c'est pour une fois ne pas faire et laisser les autres. Voilà.
Alors cet été, nous sommes toutes allées à la ferme du Plessis pour rencontrer des penseurs et des sages qui se sont réunis autour du sujet « Se changer pour changer le monde » et j'ai pu grappiller ici et là leurs paroles et leurs réflexions. Vous allez entendre dans l'ordre Pierre Rabhi qui donne sa vision humaniste, Christophe Massin qui est psychiatre et Brie Dipamrita qui est représentante d'AMA en France, donc qui est plutôt sur une vision spirituelle et hindouiste. Et qui vont nous parler de ce changement intérieur. On va les écouter tout de suite.
Là, ça, c'est découper des champignons tout petits pour le risotto d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est ce midi ou ce soir. Et ben sinon, c'est du ceva. Nous sommes en train de faire du ceva. Donc, c'est le bénévolat qu'on fait au centre AMA pour participer à toutes les tâches, et notamment à la cuisine. Il y a toujours du travail pour préparer les repas. Voilà. D'autres aussi, c'est va, mais en tout cas celui de cuisine, quand il y a autant de monde,
ah oui,
c'est très important.
Chose, hein.
Donc, je ne sais pas combien nous sommes en ce moment dans les différents coins à travailler. Mais,
on peut y passer du matin au soir sans problème. On est toujours occupé.
Surtout aujourd'hui.
Voilà, sinon, au niveau d'aujourd'hui, en fait, il y a des personnes qui vont aller aux conférences, qui peuvent faire un petit peu de ceva en ce moment, là, jusqu'à 10h. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont là pour faire du ceva toute la journée et qui entendront les conférences à distance.
Donc, à distance, c'est-à-dire
il va y avoir une rediffusion en direct dans la cuisine, notamment. Donc, on pourra écouter la conférence en travaillant.
Voilà. Très bien. Donc, vous n'y serez pas, mais vous y serez quand même.
Voilà. Voilà. Sinon, c'est souvent le matin, le ceva, c'est souvent en silence. Voilà, de préférence. Bon, aujourd'hui, c'est un peu particulier.
La plus grande force de transformation de la société, c'est l'amour. Du coup, c'est la seule force de transformation que tu vois.
Oui, mais c'est-à-dire que quand j'affirme qu'il ne peut pas y avoir de changement de société sans changement de changement de société sans changement humain, pour moi, c'est une évidence. Et le changement humain, il ne faut pas se défausser sur les autres doivent changer. Et c'est pour ça que ça ne peut pas évoluer si je ne prends pas cette question quelque chose qui me concerne d'abord au premier chef. On l'a fait à travers le colibri faire sa part, mais dans un autre champ de réalité qui est là, dans la relation humaine, il est nécessaire que nous comprenions que notre changement induit le changement global. Autrement, on est toujours dans la justification de nous-mêmes, et sans prendre en compte que se justifier en permanence et ne pas avoir une autocritique honnête. C'est honnête et elle n'est pas forcément manichéenne, c'est pas le bien ou le mal, c'est le réalisme absolu. Et dans ce réalisme absolu, ben je reconnais en mon âme et conscience à quel moment je suis juste, à quel moment je suis injuste, à quel moment je suis... parce que je peux aller manifester contre les multinationales, les machins, les trucs, et rentrer chez moi et pourrir la vie de ceux qui vivent autour de moi. C'est pas incompatible. Voilà. Donc tout ça implique évidemment de partir de soi pour dire, si je veux du changement, il faut que ce changement, je l'engage moi-même concernant mon implication dans la société. Et ce changement-là, d'abord, il est magnifique parce qu'on a une évolution personnelle où on va vers l'humanisation, parce qu'on est, nous sommes un agglomérat d'êtres humains. Et l'humanisation, c'est vraiment le summum et je dirais bien la quintessence de ce que peut devenir une société dans sa transformation. Et l'humain doit aller vers cette quintessence qui aboutit encore une fois à l'amour.
Et vous, comment vous sentez-vous ?
Ce qui fait beaucoup de bien, c'est de revenir au moment présent, quoi. C'est vrai que là, cet après-midi, c'est profitable pour ça.
Je suis persuadée, ça fait un moment que ça trotte dans ma tête, mais je suis persuadée que, effectivement, reconstruire la société va repasser par le local, par des actions centrées sur un territoire, ensemble, avec du jardinage, avec des choses très simples, mais qui remet l'humain et la nature au centre, comme le dit Pierre Rabhi. Ouais, moi ça me donne de l'espoir pour les 5 années à venir, là, déjà.
Ouais, c'est juste passionnant d'écouter Pierre Rabhi, de voir qu'il y a des gens qui sont capables de pouvoir donner des idées si claires et des projets concrets. Ça donne vraiment de l'espoir. Voilà. Il parlait de son livre « Sommeur d'espoir ». C'est parce qu'il y a quelques temps, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, l'écologie, on se dit wow, « on ne va jamais s'en sortir ». Tandis que le voir, l'écouter, le charisme qu'il a, c'est juste formidable. Quoi, que les projets qui naissent, c'est cool.
Oui, c'est cool. Ouais. Juste une question, est-ce que c'est porté que pour les initiés ou est-ce que voilà, ça s'ouvre réellement à un monde un petit peu plus inconscient, quoi ? Est-ce que ça reste...
Bonne question.
En tant que médecin, la biologie, qu'est-ce qu'elle m'a appris ? Elle m'a appris justement les ajustements que l'on pourrait voir du point de vue spirituel et psychologique comme l'amour. Eh bien, au niveau biologique, c'est justement cette capacité à des ajustements continuels extrêmement fins. Comment on voit l'amour d'une mère pour son bébé ? C'est justement cette capacité qu'elle a, instant après instant, à s'ajuster, à entendre, à percevoir des signaux qui émanent de son enfant pour répondre d'une manière juste, d'une manière adéquate. Donc l'amour, c'est un ajustement instant après instant, très concret. C'est pas j'aime les gens comme ça en général sans implication concrète. L'amour est une implication très concrète. Donc cette implication va se manifester par des régulations constants, des ajustements constants, très fins, et c'est ce que nous montre la biologie. Notre système nerveux et tout le vivant est organisé avec la loi du biofeedback, c'est-à-dire que toute action que j'émets, j'en reçois immédiatement le retour de mon environnement, et ça va réguler immédiatement en moi-même. Si je sécrète une hormone à l'intérieur de moi, il y a des récepteurs à l'intérieur de mon cerveau qui vont dire maintenant il faut modérer la sécrétion de cette hormone et ainsi de suite. Donc le biofeedback intervient pour ajuster continuellement, pour trouver toujours cette justesse, juste ce qu'il faut, pas plus, pas moins. Nous vivons dans une société qui est très cloisonnée et où nous sommes privés du biofeedback. Quand je tire la chasse des WC, je ne sais pas où ça va, je ne veux pas le savoir.
Quand j'ouvre le robinet d'eau, je ne sais pas d'où ça vient, ça m'est égal. Donc je peux laisser le robinet d'eau ouvert toute la journée. C'est pas moi qui vais avec un seau le chercher à 2 km dans un puits, le porter, et mon seau hygiénique, ben là aussi, c'est pas moi qui vais le porter et le déverser, faire un trou, c'est pas moi. Donc je n'ai pas le biofeedback. Je n'ai pas ce retour sur mes actions. Donc il y a un dérèglement. Il y a un manque d'ajustement parce qu'il n'y a plus le biofeedback. Et que nous nous arrangeons en plus, pour qu'il n'y ait pas. Nous faisons en sorte qu'il y ait un cloisonnement pour que nous n'ayons pas le retour de nos actions parce que ça heurterait notre sensibilité. Et c'est plus commode et c'est plus confortable comme ça. Donc là aussi, d'un point de vue psychologique, eh bien justement, nous avons à défaire ces cloisons et aller voir quelles sont les conséquences de mes actions. Et ça, pour moi, ça devrait participer à l'éducation des enfants pour que justement un enfant puisse tracer ses actions, d'où vient cette eau qu'il boit, où va-t-elle, etc., ses déchets, qu'est-ce que ça implique à chaque fois, pour que peu à peu, ben justement, nous réintégrions en nous cette capacité à nous ajuster, à avoir la réponse exacte, pas plus, pas moins, qui est nécessaire à notre vie, pas plus, pas moins, et pas justement quelque chose qui soit complètement déréglé. Voilà à peu près l'essentiel de ce que je voulais partager.
Donc après ces deux conférences, je me sens pleine d'espoir. J'ai compris que j'avais une responsabilité dans le changement et que c'était à ma portée. Je me sens pas encore outillée et prête à me mobiliser directement, mais en tout cas je sens que je chemine et je suis contente d'être sur ce chemin et je suis très contente de voir toutes ces personnes autour qui sont là et qui ont les mêmes envies, les mêmes interrogations aussi, les mêmes doutes en échangeant avec les uns et les autres, et puis l'ambiance aussi est très nourrissante, très agréable, très sereine.
C'est un lieu vraiment extrêmement propice. Moi, je rebondis parce qu'on a été tous les trois également la semaine dernière, enfin toute la semaine ici. Et je trouve ça très intéressant d'enchaîner les événements et les publics. Donc en particulier, là, les 4 jours qui vous ont précédé, il y avait une semaine dans le cadre d'un partenariat avec le foyer d'accueil Chartrain, où on a accueilli un petit groupe d'une vingtaine de personnes avec 2 types de publics, des gens vraiment en difficulté d'insertion sociale. Des gens qui étaient vraiment là-dedans, et puis un autre catégorie qui était plutôt des gens étrangers sans papier pour l'essentiel. Ce qui est magique dans ce lieu là, c'est qu'on enchaîne les deux, une petite manifestation à 20, là une grande à 300, et que tout ça, ça fait lien quoi, c'est la même chose en fait. C'était
sensation de fraternité,
vraiment magnifique. Des gens qu'on n'aurait pas côtoyés par ailleurs parce qu'on fréquente pas les facs, et donc voilà, tout ça ne fait qu'un quoi. La problématique sociale, la problématique écologique, la problématique psychologique, la problématique spirituelle.
La spiritualité, ce sont ces valeurs, dont l'amour. C'est ce travail sur soi où nous cherchons à découvrir ce que nous sommes vraiment. C'est une approche du monde qui est tellement différente, où on pourrait dire que le chercheur spirituel ne cherche pas à changer le monde. Il cherche à voir où est-ce qu'il ne l'aime pas et où est-ce qu'il peut, dans la relation à l'autre, exprimer, parce que l'amour qui ne s'exprime pas, à quoi ça sert? Il n'y a que l'ego qui peut aimer et pas aimer. Notre vraie nature, elle est amour. Donc, pour moi, c'est un jalon. Est-ce que je suis relié à ma vraie nature qui est cet amour inconditionnel, ou est-ce que je suis identifié à celle qui a besoin d'être connue, celle qui veut avoir raison, celle qui dit qu'elle sait, celle qui est blessée, etc. Et là, à chaque fois, ça me donne des éléments à travailler. On pourrait dire qu'il y a 2 choses dans une action, une parole. Il y a d'où elle part Qu'est-ce qui parle en moi? Est-ce que c'est cet amour inconditionnel ou est-ce que c'est un niveau qui recouvre, qu'on appelle donc l'ego, qui fait un tas de choses complexes, peut-être Christophe va nous en parler, et donc qui ne va plus être juste, qui ne va plus être dans l'harmonie. Hein. Et donc il y a le point de départ et il y a la motivation. Point d'arrivée, on pourrait dire, où est-ce que je veux aller? Est-ce que je veux quelque chose, m'emparer de quelque chose pour combler justement une insécurité, une peur? Ou est-ce que je veux aller simplement vers exprimer concrètement cet amour inconditionnel?
Donne envie de revenir en tant que bénévole?
Ah moi oui. Ça, oui, là je viens d'enchaîner 2 semaines et je trouve ça c'est très très libérateur d'être bénévole, c'est comme si
servir sans rien attendre en retour, c'est une pratique spirituelle qui est très forte ici.
Oui, c'est donc, une des principales.
C'est quelque chose à expérimenter, à goûter. Hein. Voilà, être bénévole, c'est vraiment, ça se goûte aussi.
Je ne vais pas faire l'enseignant parce que je découvre juste, mais en gros, il y a la pratique de la méditation, il y a la pratique de la dévotion, il y a des pratiques de chant, mais le service des intéressés est une des 4 pratiques fondatrices. On peut même dire que c'est la plus importante en temps, puisqu'on y passe 6 heures par jour. Là. C'est vraiment un cheminement, Amma dit que c'est un cheminement de purification du cœur, parce que c'est vrai parce qu'on est confronté tout de suite, alors pas seulement au fait je travaille pour pas d'argent, pour une fois, mais à d'autres choses plus subtiles, y compris est-ce que je travaille quand même si personne me voit, ou donc il y a les reconnaissances psychologiques quoi. Et tout ça c'est pas encore de la responsabilisation, c'est encore je travaille pour le regard de l'autre ou pour des comparaisons égotiques entre qui est le plus serviable. Bon, j'en ai même vu un qui pensait à sa dette ou à sa récompense karmique. voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture, il n'y a pas que l'argent, et tout ça ça se traverse. Et je pense que j'ai l'impression que moi, si on peut traverser ça, c'est qu'il y a un grand bénéfice au service bénévole, et je trouve que c'est quelque chose de très joyeux. En fait.
À condition de le voir, en fait. Dipamrita a parlé de l'état témoin, et service désintéressé, vraiment aussi un service désintéressé, à condition qu'il y ait de la vigilance, quoi. Voir ce qui monte.
Et le moteur, je pense que si on peut traverser ces obstacles, c'est qu'il y a un moteur qui vient vite, qui est la joie. Tout à l'heure, j'ai servi, là, je me surprends à sourire à chacun facilement, en fait.
Pour conclure, après ces propos très inspirants où on a entendu Pierre Abbi, Christophe Massin et Brady Pamrita, ce que je retiens, c'est que le moteur pour savoir si on est à notre juste place, c'est la joie. Donc je conclurai là-dessus. Je voudrais vous dire aussi que les Colibris de Chartres cette année vont centrer leur programme sur la révolution intérieure. Donc vous pouvez toujours vous connecter sur le site des Colibris, sur le blog. Et puis je remercie toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui, y compris Simon. Vous pouvez retrouver cette émission sur la page Le Domaine du Possible de Radio Grand Ciel. On se retrouve le mois prochain pour d'autres inspirations. Je vous invite donc dans un mois, à très bientôt.